Bienvenue à un autre épisode de KMB, baby! Cash Money, baby!
Bon, la semaine dernière, je vous avais écrit une histoire sur un récit que j'avais vu et assisté à. Mais cette semaine, je me suis dit, je vais juste écrire une histoire imaginaire. Puis, je sais pas si je peux considérer ça horreur, mais bon, je vous raconte ça. Vous êtes prêts? Non, le titre de mon histoire s'appelle « La maison des ombres ». Il y avait quelque chose de sinistre dans la vieille maison abandonnée à la lisière du village. Les villageois l'avaient longtemps évité, chuchotant des histoires de bruits étranges et de silhouettes fantomatiques entre les murs décrépits. Mais pour Sarah, une jeune journaliste curieuse, c'était l'occasion rêvée pour un scoop. Sarah, déterminée à découvrir la vérité derrière les rumeurs, s'aventura un soir d'automne dans la maison. Le ciel était couvert de nuages noirs et un vent sinistre soufflait à travers les arbres. La maison semblait l'attirer. Chaque craquement du bois et chaque ombre projetée sur les murs réveillaient une inquiétante curiosité. En franchissant la porte, Sarah sentit un frisson parcourir son échine. Les meubles étaient couverts de draps poussiéreux et une épaisse couche de toile d'araignée ornait les coins de chaque pièce. Armée de sa lampe torche et de son courage, elle avança dans le hall sombre. À mesure qu'elle explorait les pièces, Sarah entendit des murmures indistincts, comme des voix lointaines chuchotant à travers les murs. « Ouh, ah !» Elle suivit les voies jusqu'à une grande bibliothèque remplie de livres anciens et d'objets mystérieux. Là, une lueur étrange émanait, d'une petite pièce cachée derrière une étagère. Avec un effort, elle déplaça l'étagère et trouvait une pièce secrète, éclairée par une lumière tremblotante. Au centre, un ancien livre à la couverture ornée de symboles occultes reposait sur un autel poussiéreux. Sarah, fascinée malgré la peur qui montait en elle, ouvrit le livre. Les pages étaient remplies de symboles étranges et de textes en latin ancien. En lisant à haute voix un passage, elle déclencha une réaction inattendue. Les ombres autour d'elle commencèrent à se mouvoir, comme si la pièce vivait. Des silhouettes indistinctes apparurent, se formant et se reformant dans un ballet terrifiant. En un instant, les ombres se précipitèrent vers Sarah, mais elle se rappela un autre passage du livre qui parlait de l'appel de la lumière. En cherchant frénétiquement autour d'elle, elle trouva une ancienne lanterne à huile posée sur une étagère. Elle alluma la lanterne et une lumière douce et chaude emplit la pièce. À la lumière de la lanterne, les ombres commencèrent à se dissiper, comme des spectres chassés par la lumière du jour. Les voix chuchotantes se turent et un calme étrange régna sur la maison. Les silhouettes se rassemblèrent autour de Sarah, semblant implorer son aide. Avec un mélange de courage et de compassion, Sarah parla aux esprits. Elle comprit qu'ils étaient des âmes perdues, piégées dans la maison par une ancienne malédiction. Le livre contenait les rituels nécessaires pour les libérer, mais il fallait agir avec soin. En suivant les instructions du livre, en utilisant la lumière de la lanterne comme guide, Sarah compléta le rituel. Une fois terminé, une lumière éclatante envahit la maison, dissipant définitivement les ombres et apportant une paix éternelle aux esprits tourmentés. En quittant la maison, Sarah sentit un profond soulagement. Les villageois informés de l'aventure de Sarah furent étonnés de voir que la maison abandonnée était maintenant paisible et lumineuse. Ils remercièrent Sarah pour avoir délivré les âmes perdues et pour avoir ramené la tranquillité à leur village. La maison, autrefois un lieu de terreur, devint un symbole d'espoir et de renouveau. Sarah publia un article sur son expérience, non pas comme une histoire d'horreur, mais comme un récit de courage et de rédemption. Et bien que le mystère des ombres fût résolu, Sarah conserva toujours la lanterne comme un souvenir précieux de la nuit où l'avait apporté la lumière dans les ténèbres. Fin. So yeah, oh, j'espère que vous avez apprécié. C'était mon petite histoire de cette semaine. Bon, pour les sujets le sujet principal de cette semaine, je me suis dit on va parler un peu des trucs scientifiques, les avancées scientifiques et I guess les... juste les avancées scientifiques, parce que moi, j'ai fait des recherches et j'ignorais tout ça. Donc, je me suis dit, bah, je vais le partager avec vous autres, mes chers auditeurs. L'un des premiers sujets que je trouvais intéressant, c'était en rapport à les ordinateurs et le cerveau humain. Un des premiers trucs, ce serait les interfaces cerveau-ordinateur. Donc, les interfaces cerveau-ordinateur permettent aux humains de contrôler des dispositifs informatiques simplement par la pensée, comme l'entreprise Neuralink, fondé par Elon Musk. Puis avec c'est des projets où il y a même des projets universitaires, des recherches universitaires qui travaillent sur des technologies pour lire et interpréter les signaux neuronaux neuronales, pardon, je devrais dire, offrant des applications potentielles dans les domaines de la médecine, de la communication. Un projet de recherche que j'avais trouvé intéressant quand j'avais cherché le web, c'est qu'il y a des chercheurs explorent la possibilité d'utiliser des tissus neuronales pour créer des systèmes informatiques bio-hybrides. Ces projets visent à combiner des cellules cérébrales vivantes avec des composantes électroniques pour créer des systèmes capables d'interagir avec des données de manière plus biologique. Par exemple, le projet Brain Machine Interface, en parenthèse BMI, de l'Université de Wake Forest a développé des systèmes où des cellules cérébrales cultivées en laboratoire ont été connectées à des circuits électroniques. Ça, c'est un des exemples. Mais un autre exemple aussi, c'est que c'est Final Spark. Ça, c'est des scientifiques suédois qui travaillent à Final Spark ont développé un ordinateur vivant créé à partir de cellules humaines de cerveau. Et dans le fond, l'ordinateur consiste en environ 16 cellules humaines qui ont été créées en labo, qui ont été lab-grown, ce qui veut dire qui ont été cultivées en labo. Puis c'est ces neurones-là qu'on communique avec l'ordinateur comme si c'était un CPU. Dans le cerveau, dans le fond, c'est les CPU. Puis ça utilise beaucoup moins d'énergie qu'un ordinateur normal. Parce qu'un ordinateur normal utilise en moyenne 21 mégawatts. Mais avec les cellules humaines, cellules du cerveau neuronal, on serait capable d'utiliser 10 à 20 watts, ce qui est énormément moins. Puis ça serait encore 1000 fois plus rapide aussi en plus. Donc c'est comme, oh shit, c'est intéressant. Puis en plus, au moins, tu sais que c'est pas comme Georges ou Jérôme qui a été mis dans l'ordinateur. Non, c'est vraiment des cellules de neurones qui ont été créées à partir de labo. Alors, I guess, ça me fait sentir moins coupable parce qu'ils n'ont aucune identité. Tu sais, ils ont été créés à partir de rien. Puis c'est vraiment intéressant. Je sais pas si vous savez ça, frère, mais moi, je trouvais ça super intéressant. Sinon, un terme un peu difficile à dire, c'est neuroformique computing. Ça, c'est les ordinateurs neuroformés qui imitent le fonctionnement du cerveau humain en utilisant des circuits électroniques conçus pour simuler les neurones et les synapses. Ces systèmes cherchent à reproduire la manière dont le cerveau traite l'information, offrant une approche différente par rapport aux architectures informatiques traditionnelles. Donc, c'est une autre manière aussi, qui est une autre avancée en rapport avec l'humain et l'ordinateur. Oh, mais un qui est vraiment le fun, puis qu'on a clairement vu tous vu dans les films de science-fiction, c'est le transfert de conscience et l'intelligence artificielle. Alors, transférer la conscience humaine dans un ordinateur pour augmenter l'intelligence artificielle ou devenir l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est des concepts clairement plus futuristes. Mais, puis bien que la théorie soit controversée, puis je peux comprendre pourquoi, on explore l'idée de transférer les processus cognitifs humains dans des systèmes informatiques. Puis actuellement, ces idées sont plus du domaine de la science-fiction que de la réalité pratique. Donc, c'est encore juste du parler. Donc, inquiétez-vous pas, celle-là n'est pas encore à jour. Il n'y a aucune avancée encore qui prouve que c'est fait. Mais les éthiques et conséquences à ça, qu'est-ce que c'est? T'sais? L'intégration des cerveaux humains ou de leurs éléments dans des systèmes informatiques soulève des questions éthiques complexes, notamment concernant la vie privée, le consentement, les implications de la fusion entre l'homme et la machine. Puis les débats sur ça sont de plus en plus fréquents à mesure que la technologie avance. Puis, ben c'est ça, moi, personnellement, ça m'effraie pas. Je dirais même que ça m'excite un peu, voir la prochaine étape de l'évolution humaine, parce que on a eu le singe, le Cro-Magnon, après on a maintenant nous, l'humain. Mais là, on est rendu... c'est le temps d'évoluer, là, d'aller au next step, là, je pense. Tu sais? Non, moi, ça, je dirais pas non, d'être un cyborg, moitié robot, moitié humain, ça serait merveilleux. Pas merveilleux, mais ça serait excitant quand même. Dans les années 2050, là, quand t'es rendu... non, peut-être pas 2050, mais des années 2080, quand t'es rendu à 80 ans, décrépit, plus d'énergie dans ton corps humain biologique, tu te dis, OK, ben, je vais transférer ma conscience dans un robot, puis ben voilà mon nouveau corps, mon nouveau ma nouvelle carapace pour continuer à vivre. Mais est-ce que ça, c'est fuir la mort? Est-ce que c'est... C'est ça. Donc, bon, c'est ma question pour vous. Et bien qu'il existe pas encore d'ordinateurs capables d'héberger vraiment un cerveau humain complet, la recherche dans les domaines des interfaces cerveau-ordinateur et de l'informatique neuroformique progresse vraiment rapidement. Donc, c'est pas l'impossible. Puis ces technologies visent vraiment à créer des interactions plus profondes entre les systèmes informatiques et le cerveau humain, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités fascinantes tout en posant des défis éthiques importants. Non, c'était mon premier truc un peu en rapport avec la science-fiction, tout ça. Puis un des autres trucs que je peux pas m'éviter de m'empêcher de parler, c'est sûr, c'est le clonage. Le clonage. Est-ce qu'on est capable de cloner des humains de nos jours? Puis là, ben, je me suis posé la question, je fais des recherches. Puis là, on me dit que non, c'est ça, le clonage humain, c'est un sujet complexe à la fois sur le plan scientifique et éthique. Mais actuellement, le clonage humain est largement considéré comme impossible en pratique et est fortement réglementé ou interdit dans de nombreux pays. Mais il y a des choses comme le clonage animal, puis ça, ces progrès scientifiques-là, ben il y a eu des progrès scientifiques. Parce que le clonage animal, pardon, le premier exemple que j'ai, c'est Dolly la brebis. Dolly la brebis! Elle, c'est en 1996. Là. C'est comme, tu sais, 1996, là. Dans ma tête, c'est pas que c'est vieux, mais ça fait longtemps que ça existe, que ça a été fait. Puis Dolly, c'est la première mammifère clonée à partir d'une cellule adulte. Puis elle a été un tournant dans la biotechnologie. Puis ce succès-là a ouvert la porte à des expériences de clonage avec d'autres animaux, tels que les bovins et les chats. Donc, Dolly la brebis, c'était comme le premier, tu sais, le premier mammifère. Le clonage d'animaux continue, mais il est souvent associé à des problèmes éthiques et de santé. Les animaux clonés présentent parfois des anomalies et des problèmes de santé. Donc, c'est pas encore parfait. C'est comme, oui, on réussit à cloner, exemple, je pense qu'en Chine, il y avait cloné deux petits bébés chimpanzés. Ils ont réussi à les cloner. Mais c'est ça, ça a été prouvé que comme leur espérance de vie est vraiment raccourcie, il y avait souvent des problèmes de santé en rapport au cœur, avec leur autres organes et tout ça. Sinon, en rapport au clonage, il y a le clonage de cellules souches. Puis ça, pour être honnête, je n'avais pas trop compris c'était quoi les cellules souches. Mais bon, je vois, peut-être que vous êtes plus intelligent que moi. En fait, je ne suis pas surpris si vous êtes plus intelligent que moi, mais bon, je vais vous l'expliquer. Je ne vais pas vous l'expliquer, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Le clonage thérapeutique, les chercheurs utilisent des techniques de clonage pour créer des cellules souches embryonnaires avec le même ADN que le patient, dans l'espoir de traiter des maladies. Ces cellules pourraient potentiellement être utilisées pour des thérapies régénératives. Donc, si moi je comprends bien, ça pourrait être utilisé, exemple, pour réparer les cellules mortes pour les gens cancéreux, exemple. Ou même les gens avec le sida, ben, ce serait possible de régénérer les cellules ou les changer justement grâce aux cellules souches. Donc, ça, j'avoue que moi, je trouve ça vraiment impressionnant et intéressant. Ce serait une belle avancée médicinale. Maintenant, pour le clonage humain. Actuellement, c'est ça, on a plus des défis, on n'a pas réussi encore. Puis les défis techniques principaux en ce moment, c'est cloner un être humain est bien plus complexe que cloner un animal. Les scientifiques n'ont pas réussi à cloner des primates de manière reproductible et les techniques de clonage animal rencontrent de nombreux défis techniques qui compliqueraient encore davantage le clonage humain. Pardon. Donc, c'est ça, comme déjà comme on expliquait que le clonage animal n'était pas parfait, c'est pas que c'est peine perdue, mais on est loin, 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 loin encore d'être rendu au moment qu'on peut cloner un humain. Mais là, c'est sûr, il y a beaucoup de gens que ça va... Ils apportent une question éthique à ça, ils disent que c'est un problème, puis les questions éthiques entourant le clonage humain sont considérables. Alors, le clonage pose des préoccupations sur l'identité, les droits et la dignité des clones, ainsi que des risques importants pour la santé des individus clonés. Alors, tu sais, c'est juste là si je vous répète. Le clonage pose des préoccupations sur l'identité. Alors, l'identité. Alors, disons que là, je décide de me cloner. Boum, le prochain clone, est-ce qu'il est Charles, puis il a la même identité que moi, ou il est comme complètement une nouvelle personne avec le même âge que moi, mais il n'y a pas tout la mémoire de mon passé? Parce que ça aussi, est-ce qu'il vient avoir les mémoires de mon passé? Est-ce que c'est cloné ça aussi, tu sais? C'est intéressant de poser ces questions-là. Les droits aussi, est-ce que là, on le considère comme pas humain parce que c'est un clone puis c'est juste un produit de ma personne, ou on le considère à part entière comme une personne? C'est une autre question à se poser. La dignité des clones. Aussi, est-ce qu'on le... Parce que c'est comme... Justement, ça a un peu un rapport avec les droits, moi, je trouve. Est-ce qu'on dit que, ah, ben, vu que c'est un clone, il n'y a pas vraiment de dignité. On le traite comme un esclave ou comme un larbin ou comme une chenille. C'est comme quelque chose de ridicule. Alors, c'est vraiment un peu les trucs qui se posent... Les questions éthiques qui se posent. Législation et régulation. Interdiction internationale. La plupart des pays ont des lois et des règlements stricts interdisant le clonage reproductif humain. Des organismes comme l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé, en parenthèse OMS, ont exprimé des positions fermes contre le clonage humain, soulignant les risques éthiques et biologiques. C'est encore ce qu'on a parlé un peu. Alors eux, les Nations Unies et l'OMS se portent vraiment contre le clonage humain. Parce qu'ils sont comme, non, c'est pas éthique, on n'en veut pas de ça. Mais, tu sais, c'est encore à débat, c'est encore possible de changer. Puis bien que les scientifiques aient des connaissances sur les mécanismes du clonage, transformer ces connaissances en un clonage humain réussi est un objectif encore très éloigné. Alors, les recherches se concentrent plutôt sur le clonage de cellules et de tissus pour des applications médicales. Alors, on est vraiment plus rendu dans cette étape-là pour guérir, soigner et tout ça. Un autre truc que j'avais lu, puis que je trouvais ça vraiment intéressant, mais ça, c'est comme un peu, justement, c'est pas tabou, mais c'est... pas tout le monde est d'accord avec ça, que c'est une belle avancée, mais bon. Puis là, c'est dur à prononcer, donc je vais faire de mon mieux. C'est le... Je vais juste l'épeler, puis après, je vais essayer de le prononcer. Dans le CRISPR, trait d'union, CAS9. Dans CRISPR-Cas9. Dans comme CRISPR-Cas9, OK? Puis c'est une technologie révolutionnaire d'édition génétique qui a transformé les domaines de la biologie et de la médecine. Puis qu'est-ce que c'est, les CRISPR-Cas9? Ben, dans le fond, c'est CRISPR, ça veut dire clustered. Là, je vais le dire en anglais, donc je peux pas le traduire en français parce que j'ai pas envie. Donc, CRISPR, ça veut dire clustered, regularly, interspace, short, palindromic, repeat, et Cas9. Puis ce système a évolué pour aider les bactéries, à se défendre contre les virus en reconnaissant et en coupant l'ADN viral. Les chercheurs ont adapté ce système pour modifier l'ADN dans les organismes multicellulaires, y compris les humains. Puis là, dans le fond, parce que moi, je lisais tout ça, puis là, j'étais comme « Ah, tabarnane », c'est comme plein de mots scientifiques, plein de acronymes, tout ça, c'est comme trop compliqué pour moi. Donc, je vais essayer de rendre ça le plus simple possible. Puis dans le fond, c'est que CRISPR-Cas9, dans le fond, que ça va faire, c'est qu'avec un guide, ils vont cibler une partie de l'ADN spécifique, exemple les yeux. Mes yeux sont bruns, mais là, ils disent non, on va changer ça, on va pas mettre ça brun, on va le rendre ça bleu. Après, comme c'est plein de choses comme ça, dans le fond. On va cibler un ADN spécifique, une séquence d'ADN, je devrais dire, et on va la modifier pour quelque chose qu'on souhaite, pour quelque chose qu'on veut avoir. On vient un peu jouer les dieux, dans le fond, si je peux dire. Parce que là, la loi de la nature, elle n'a plus son mot à dire. C'est comme elle dit, « Ah ben, c'est ça qui était prévu pour telle personne, mais finalement, si tu veux, grâce à la CRISPR-Cas9, on peut changer tout ça, puis te donner le choix que tu veux. » Donc, c'est vraiment comme un jeu vidéo. Tu sais, quand tu joues à un jeu vidéo, puis là, tu te dis, « Ah, ben, faut que tu crées ton personnage au début du jeu. » Puis là, tu y choisis les couleurs de cheveux, tu y choisis sa grandeur, tu choisis son sexe, tu choisis sa musculature, sa corpulence, tu choisis tout. Puis c'est un peu ça que CRISPR-Cas9 te permet de faire. Donc, quand je parle comme un jeu vidéo, je suis comme, « Ah, OK, c'est quand même cool. Alors, je peux être 6 pieds 4, dans le fond. » Mais je sais pas si c'est vraiment tu peux être 6 pieds 4, mais tu sais, c'est vraiment possibilité de modifier ton ADN génétique, ce qui est quand même assez fou, merci. Mais des côtés plus positifs, justement, à CRISPR-Cas9, comme les applications qui est utilisée en ce moment, c'est les recherches biomédicales. Donc, les chercheurs vont utiliser, justement, CRISPR pour étudier le rôle des chaînes en les inactivant ou en les modifiant, ce qui aide à comprendre les mécanismes des maladies et des processus biologiques. Sinon, il y a la médecine génétique. Donc, CRISPR est utilisé pour corriger des mutations génétiques à l'origine de maladies comme la fibrose kystique, la dystrophie musculaire et certaines formes de cancer, ce qui est vraiment intéressant. Par exemple, des essais cliniques sont en cours pour utiliser CRISPR pour traiter des maladies génétiques comme la drépanocytose et la bêta-thalassémie. Je devrais pas rire, mais je sais pas c'est quoi ces maladies-là, mais ça a l'air comme vraiment compliqué et complexe. Sinon aussi, c'est appliqué dans le domaine de l'agriculture pour modifier les plantes. Ouf, OK. Puis c'est vraiment utilisé pour créer des plantes avec des traits améliorés, tels que des résistances accrues aux maladies, OK, une meilleure tolérance aux conditions climatiques extrêmes, et des rendements accrus, donc comme plus de fruits, plus de production. Puis ils peuvent aussi être utilisés pour créer des cultures plus nutritives, donc il y a plus de protéines dans de la salade. Je ne sais pas s'il y a des protéines dans la salade, mais plus... nutritive, Chris, vous comprenez. Sinon, il y a la biotechnologie. CRISPR va être employé pour modifier des bactéries et des levures afin de produire des substances chimiques, des médicaments et des matériaux à haute valeur ajoutée. Intéressant. Puis là, c'est bien beau, tout ça, c'est belle avancée technologique-là, mais il y a des gens qui ont des choses à dire. T'sais, ils disent qu'il y a des défis, des considérations éthiques à avoir avec ça. Puis dans le fond, CRISPR peut parfois provoquer des modifications non désirées ailleurs dans le génome, ce qui pourrait entraîner des effets secondaires. Donc, comme, oui, je vais avoir les yeux bleus, mais je vais peut-être avoir un sixième doigt sur ma main droite, exemple. Exemple. Sinon, côté éthique, ben, ça serait l'utilisation de CRISPR pour modifier les germes, les cellules reproductrices ou les embryons humains. Puis là, ça soulève des questions éthiques importantes, dans le fond, notamment sur la modification permanente de l'hérédité humaine. Donc, si on se modifie comme ça, est-ce qu'on est encore humain ou on est une autre espèce, on est évolué? Donc, pour certains, c'est éthique. Pour d'autres, ça serait comme une belle avancée. Donc, c'est comme à découvrir. Il y a aussi l'équité et l'accessibilité. Parce que on peut dire que oui, c'est une belle technologie, puis on peut se modifier comme on veut, mais c'est peut-être pas tout le monde qui va avoir accès à ça. C'est comme peut-être, comme on sait, comme d'habitude, ça va être les riches qui vont avoir accès à ça. C'est comme, oh, ça va te coûter 500 000 $ pour avoir des beaux yeux. Ben, ou avoir comme courir plus vite parce que tu vas avoir des mollets vraiment musclés. C'est pas tout le monde qui va pouvoir se permettre ça. Alors, c'est vraiment c'est pour ça qu'on pense que c'est inégal, parce que c'est des belles avancées, mais ce serait pas à la portée de tout le monde. Puis là, dans le fond, ma conclusion avec ça, c'est que CRISPR-Cas9 est une technologie puissante et versatile qui a le pouvoir de transformer de nombreux domaines scientifiques et médicaux, tout en offrant des possibilités extraordinaires pour traiter des maladies, améliorer les cultures et comprendre les gènes. Mais ça soulève également des questions éthiques et pratiques importantes qui nécessitent une réflexion approfondie et une régulation appropriée. Donc, c'était un peu ma conclusion là-dessus.
Bon, ça suffit de parler des trucs scientifiques, les avancées scientifiques, médicinales et tout ça. Pas cette merde-là, mais tous ces trucs intéressants-là, parce que j'en ai marre. Maintenant, je veux plus vous parler de... Parce que je me suis posé une question, puis est-ce que les animaux savent rire comme nous, les humains, on sait rire? Puis là, ben, le premier que j'ai découvert qui ont un rire dans les animaux, c'est les rats. Les rats, eux autres, ils ont un rire ultrasonique. Les rats émettent, dans le fond, des sons ultrasoniques lorsqu'ils sont heureux ou amusés. Ces sons sont trop aigus pour être entendus par les humains, mais ils sont considérés comme une forme de rire chez les rats. Les scientifiques ont observé que ces sons se produisent souvent pendant les jeux ou les interactions sociales positives. Sinon, il y a les primates, c'est sûr. C'est sûr, les primates étaient là. Donc, rire chez les chimpanzés, les bonobos. Bonobos, exact, ouais. Les chimpanzés, les bonobos émettent des vocalisations particulières pendant les jeux qui ressemblent beaucoup à des éclats de rire humains. Ces vocalisations sont souvent accompagnées de comportements ludiques et sociaux. Les chercheurs pensent que ces sons aident à renforcer les liens sociaux et à signaler le plaisir. Sinon, il y a les chiens. Eux, les chiens n'ont pas de rire au sens humain, mais ils émettent des sons spécifiques lorsqu'ils jouent, souvent décrits comme des souffles de jeu ou des respirations amusées. Ces sons accompagnés d'un langage corporel détendu signalent que le chien est joyeux et amusé. Sinon, il y a les corbeaux et les pies. Les corbeaux et les pies sont conçus pour leur intelligence, sont connus pour leur intelligence et leur comportement ludique. Bien qu'ils n'émettent pas de sons qui ressemblent à des rires, leur interaction sociale complexe et leur jeu montrent une capacité à éprouver du plaisir. Non, tu sais, ils savent pas rire, eux autres. Les dauphins. Les dauphins sont très sociaux, et jouent souvent entre eux. Ils produisent une variété de sons dont certains sont liés à des comportements ludiques. Bien que les dauphins n'aient pas de rire comme les humains, encore une fois, leur comportement montre qu'ils éprouvent du plaisir et de la joie. Nice. Les éléphants. Les éléphants sont également connus pour leurs comportements sociaux complexes et leurs jeux. Ils émettent divers sons pendant les interactions sociales qui peuvent refléter des états émotionnels positifs, bien que cela ne soit pas exactement équivalent au rire humain. Puis, il y a plein d'autres animaux, mais j'en ai pas trouvé d'autres pour le vrai dans mes recherches. Mais c'était ces 6-là que j'ai trouvé que, comme, ok, nice, ils savent éprouver de la joie, du bonheur, comme nous les humains, on sait éprouver de la joie et du bonheur. Ok, mon dernier sujet pour cette semaine, ça va être les chenilles. Waouh, wouh! Puis, les chenilles sont des créatures fascinantes parce qu'il y a beaucoup de faits intéressants à leur sujet. Puis, un des premiers, ça serait la transformation spectaculaire que les chenilles vont. Les chenilles, dans le fond, c'est la larve du papillon et des mites. Elles passent par une transformation impressionnante appelée métamorphose. Ok, ça fait bien du sens, Chris. Où elles se transforment en chrysalide. Ouais, c'est mieux ça. Avant de devenir des papillons adultes. Et elles ont un appétit vorace. Les chenilles sont connues pour leur appétit insatiable. Elles passent une grande partie de leur vie à manger pour accumuler de l'énergie et des nutriments nécessaires à leur transformation. Certaines chenilles peuvent consommer jusqu'à 27 000 fois leur poids en nourriture durant leur phase larvaire, quand même. Beaucoup de chenilles possèdent des couleurs vives ou des motifs élaborés qui les aident à se camoufler ou à avertir les prédateurs de leur toxicité. Par exemple, certaines chenilles ont des motifs qui ressemblent à des yeux pour effrayer les prédateurs. Certaines chenilles ont développé des mécanismes de défense fascinants. Par exemple, la chenille de la sphinx de tomate. Waouh, quel nom merveilleux. La chenille de la sphinx de tomate peut se recroqueviller et émettre un son strident pour éloigner les prédateurs. Puis sinon, comme la chenille... Certaines espèces de chenilles vivent en groupe, comme la chenille du papillon de la soie. Elles peuvent tisser des fils pour se regrouper et se protéger ensemble. Cute, cute. Il existe des chenilles particulièrement grandes, comme celle du papillon de lune en Amérique du Nord, dont les chenilles peuvent atteindre jusqu'à 12 cm de long. Oh, ça m'a donné des frissons dans le dos, ça. 12 cm de long, man. Oh, fuck. Imagine, tu marches dans la forêt. La 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 la. La 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 la. Puis là, boum, il y a une couple de chenilles de lune qui te tombe sur les épaules. Oh, boy. Les chenilles peuvent être utilisées pour surveiller la santé des écosystèmes. Leur présence ou absence peut indiquer des changements dans la qualité de l'habitat ou la présence de contaminants. Ok, intéressant. Intéressant. Chaque espèce de chenille a des préférences alimentaires très spécifiques. Certaines se nourrissent uniquement de certaines plantes, ce qui les rend très sensibles aux changements environnementaux. Alors, dans le fond, ma conclusion avec ça, c'est que ces petites créatures jouent un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire et la santé des écosystèmes, tout en offrant un spectacle fascinant de transformation et de diversité. Boum! Bon, c'est le moment où on se calme tous ensemble. On s'installe dans un lieu où on est propice au calme. On va fermer les yeux, respirer, et on va méditer pendant une petite minute. Donc, dans 3, 2, 1. Donc, imagine-toi dans un champ de blé. Le soleil est fort et dans le ciel, t'es près d'un arbre, entouré de blé. T'es en paix, t'es en harmonie. Tu te sens faire un avec ton environnement. Respire, expire. Tu sens le rayon du soleil sur ta peau. Tu sens le vent caresser tes joues. Respire. Respire. Expire. Dans le chant aussi, tu entends le chant des oiseaux. Tu sens aussi l'énergie de tous les êtres vivants qui t'entourent. Tu es un avec tout. Tu es en paix et en harmonie. Respire. Expire. Voilà, c'était la minute méditative. Maintenant, ça va être la chanson de la semaine. Puis la chanson de la semaine, cette semaine, ça va être Dance Dance de Fall Out Boy. Says she's no good with words, but I'm worse. But it started out a joke of a romantic stuck to my tongue. Way down with words too overdramatic. Tonight is a can't get much worse. Worse no one should ever feel like. I'm too cold and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. See me there just to get by. Always fold just before you found out.
drink up its last call, last resort. But only the first mistake. I'm too brutal than a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have.